ce 30 secondes de pub-là, ça pourrait être ton 30 secondes pour plugger ton commerce, ton resto, ton commerce de chasse et pêche, ta quincaillerie, whatever ce que tu veux plugger dans le podcast. C'est un 30 secondes qui est à toi. Un podcast qui est au-dessus de 6000 auditeurs différents chaque semaine, des milliers d'abonnés sur Spotify. C'est facile de faire une publicité qui rapporte. Écris-nous au contenu à commercial votreconseiller.net pour avoir les tarifs, puis la pub est à toi. Hey, bon show, là.
Yann va être candidat d'agent talon pour le PQ.
C'est le pire, c'est que je m'en allais essayer d'introduire quelque chose.
Non, et, j'ai été raide comme ça.
Les
gens, Yann a décidé qu'il était péquiste maintenant.
Mais t'imagines-tu la conférence de presse, genre PSPP, puis il y a Yann à côté, tu sais, qui est comme qui attend pour prendre la parole. Sérieux, ce serait un troll. Mettons que ce serait fait de manière ironique, ce serait un troll magique.
Écoute, tu sais qui serait encore plus troll, c'est qu'ils disent « Qu'est-ce qui vous a convaincu d'être souverainiste? » Puis il dit pas PSPP, il dit Vincent Geloso.
Ouais, ou qui arrive au micro et dit ben écoutez, moi j'en suis venu à la réalisation que si on faisait l'indépendance, on serait tellement dans la marde qu'on serait obligé finalement de se forcer le derrière un peu pour se développer puis exploiter nos ressources.
On pourrait développer du pétrole au Québec.
Ah, c'est ça.
Juste voir la face des gens.
T'as Pascal Bérubé en arrière qui est comme oh my fucking god.
Le pire, c'est que s'il se fait élire dans Jean Talon, tu pourrais... Finalement, le PQ serait un caucus très diversitaire.
Ouais, c'est ça. Écoute, aujourd'hui, tu m'as envoyé... Yann, il est pas là. Il avait oublié qu'on faisait le podcast le vendredi. Fait que c'est booké des rendez-vous avec des clients.
Non, c'est juste parce qu'il est en train... Il est vraiment en train de préparer sa primaire dans son assemblée d'investiture dans Jean Talon.
Oui, ben c'est ça, c'est que les gens qu'ils rencontrent, c'est Joël Arsenault, Pascal Bérubé, Pauline Marois, c'est tous des gens.
Yep.
Les oreilles doivent vaciller. Dans notre conversation
attends, j'ai quelque chose. Il est chez le concessionnaire pour s'acheter une Miata.
Bon, ben là, c'est ça, il n'a pas le choix s'il veut faire la tournée des régions.
Tu ne peux pas faire campagne sans une Miata au PQ. Là.
Ah, c'est clair. Ouais, fait que c'est ça, tu nous as envoyé dans notre conversation de préparation du podcast une étude que je trouvais bien intéressante. Je ne sais pas si je prononce bien les noms, là, mais c'est Alexandre Cardesi ou Cardesi, je ne sais pas comment il faut le prononcer. Et Robert Lawson. Qui ont publié ça, c'est dans, je l'ai ici, The American Journal of Economic and Sociology. Et donc, c'est quand même assez récent, là, ça date de mars de cette année, l'étude. Et en gros, je l'ai traduit pour les biens de la lecture pour les auditeurs. Là. On nous dit, cette étude examine les prix de location de camions pour des allées simples pour 378 villes. Il existe d'importants écarts de prix dans les prix de location allées simples entre les paires de villes, l'attraction des gens vers des lieux à plus grande liberté économique et à s'éloigner des lieux à plus faible liberté économique s'avère être un déterminant important des écarts de prix entre les villes. Je trouve ça intéressant parce qu'on prend, tu sais, un exemple, comment je pourrais dire ça, tu sais, ça peut toucher n'importe qui, là. Je veux dire, tout le monde est susceptible de louer un genre de U-Haul ou de louer un... J'imagine que plus largement un véhicule, ça, en général, ça doit être un peu la même chose selon les réglementations d'une ville ou d'un État à l'autre. Mais je trouvais intéressant, je vais le faire apparaître à l'écran pour les gens qui veulent le consulter. Puis ceux qui sont sur Patreon, normalement, je mets les liens dans la description. Là. Mais c'est cette étude-là ici. Donc, il y a quand même plusieurs trucs qui sont abordés là-dedans. Puis c'est quand même un indicateur original. Puis. Comment je pourrais dire ça, qui est assez parlant, là, dans le sens, le prix d'une location d'un truck, là, je veux dire, c'est assez basique comme exemple pour montrer un point générique qui est que ben, quand tu vas dans des endroits qui a une plus grande liberté, ben, comme par hasard, les prix sont plus bas, tu sais, à tout hasard.
Non, c'est l'inverse, les prix sont plus élevés pour le camion. Parce que ça a l'air, là, tu aurais un gauchiste qui dirait « Ah, c'est une preuve que la liberté économique n'est pas bonne. » Non, mais la réalité, c'est parce que si je loue un camion, mettons que je suis à Washington, D.C., qui est qui est un des endroits avec le moins de liberté économique aux États-Unis, si je loue pour aller de DC vers la Floride, il y a plus de gens qui vont dans la direction de DC vers la Floride que vers la Floride vers ici.
Ouais, c'est ça.
Mais l'affaire, c'est qu'il faut toujours que j'aille un certain nombre de camions pour les gens d'ici qui veulent partir. Donc, s'il y a plus de gens qui veulent aller dans une direction, il faut que je charge plus juste pour que le camion puisse revenir éventuellement pour le prochain client. Donc, il faut que j'embauche une personne additionnelle pour ramener les camions à Washington pour la prochaine période. Puis eux, ce qu'ils checkent, c'est qu'on va prendre toutes les villes aux États-Unis, on va faire une paire. Fait que si, mettons, on va prendre DC vers la Floride, DC vers Dallas, DC vers New York. Fait que tu fais ça pour toutes les villes aux États-Unis puis tu le fais pour toutes les directions. Donc, tu as comme une sorte de ce qu'on appelle des dyades, là, le nom en anglais, mais c'est comme toutes les paires de villes. Puis ce que tu veux savoir, c'est est-ce que la ville de destination, si elle a plus de liberté économique que la ville d'origine, est-ce que le fait que ça a un effet sur les prix? La réponse, c'est oui. Puis l'idée ici, c'est que la liberté économique est un indicateur de la demande de camions pour aller vers la Floride ou aller vers le Texas. Et ce que tu vois, c'est que les camions sont excessivement coûteux pour aller de ces États-là vers la Floride. Par contre, étrangement, si tu t'en vas du Texas vers la Floride, les prix ne sont pas très élevés. Par contre, le prix de la place où est-ce que les prix les plus bas aux États-Unis, California. C'est les gens ont l'air de vraiment vouloir décrisser de la Californie. Fait que si tu t'en vas vers la Californie, eux autres sont très contents de te louer un camion si tu pars de la Floride. Parce que quitter vers la Californie, eux, ils ont vraiment besoin de quelqu'un qui ramène le camion en Californie anyways. Fait qu'ils n'ont pas de problème à te louer un camion pour beaucoup moins cher parce qu'ils évitent de payer un employé pour le faire.
Mais on dirait que j'imagine assez facilement, on nommera pas de nom, là, mais il me semble que j'imagine facilement un genre de think tank, mais j'imagine une institut, mettons, québécoise ou un groupe de recherche québécois qui arriverait avec un papier de même qui nous dirait « Regardez, on a fait on s'est appuyé sur des données et quand on regarde aux États-Unis, ben, les endroits qui ont un état social important, là, où les gens ne sont pas laissés pour compte, comme la Californie, New York, ben, on remarque par exemple des indicateurs très simples. Les prix pour louer un camion de déménagement sont beaucoup plus bas que dans les endroits où on laisse le néolibéralisme dominer, là. Et je suis certain qu'il pourrait te faire un papier là-dessus. Et si tu ne vas pas voir les causes derrière, ben, dans le fond, qui est la demande, qui est complètement absente dans un cas, ben, ça peut t'amener justement à des conclusions un peu étranges.
Oui. Ben écoute, on ne mentionnera pas un institut qui a un nom qui est lié à une partie des yeux.
Oui, c'est ça.
Dans ton œil, il y a un truc qui s'appelle, je pense, l'iris.
Oui, c'est ça.
Donc, je pense que c'est ça. Je pense que c'est un groupe de recherche en ophtalmologie. Ouais, quelque chose comme ça. Je ne suis jamais sûr, étant donné de la qualité de leur recherche, je ne suis jamais sûr exactement c'est de quoi est-ce qu'ils parlent. Greedflation.
Ouais.
C'est facile de leur taper dessus. Mais l'idée que je trouve un peu triste qu'ils n'ont pas fait dans l'article, qui serait vraiment le fun qu'ils aient fait, c'est de voir si les prédictions qui sont basées sur ça s'agencent avec la migration entre États. Parce que là, l'idée est que c'est vrai que ça a l'air de bien expliquer les prix, ça a l'air de bien expliquer aussi la destination des camions. Mais ça serait le fun de voir si ça explique bien quel état ont gagné et perdu de la population au net. La réponse, c'est que très facilement, tu peux le voir. Puis j'ai fait l'effort de le faire. J'ai regardé leurs résultats. Puis il y a une manière de tester si c'est le cas. Puis la réponse, c'est oui. Ça prédit très, très bien quel état devrait perdre la population puis en gagner. Notamment, la Californie devrait en perdre, ce qui s'est passé. New York devrait décliner relativement au reste des États-Unis. Et les États qui gagnent devraient être Arizona, Texas, Floride, Dakota du Nord, Dakota du Sud. C'est deux États qui ont une grosse croissance démographique. Étrangement, mais pas si étrangement que ça quand tu connais un peu les États-Unis. C'est des États avec énormément d'exploitation gazière. Donc, il y a beaucoup de développement qui se fait dans ces États-là. Puis c'est quand même assez impressionnant parce que quand tu regardes c'est quoi le Dakota du Nord puis le Dakota du Sud en passant, c'est comme si c'était le Manitoba, mais un petit peu au sud. ce qui n'est absolument pas intéressant, de tout, soyons très clairs. Je trouve déjà le Manitoba pas très intéressant en soi. Le fait est que si tu as vraiment envie d'aller dans le Manitoba américain, il faut vraiment qu'il y ait vraiment des conditions économiques incroyables pour que tu veuilles déménager là, ce qui est le cas dans ces États-là. Donc, c'est des États à grosse croissance démographique, largement parce que les gens trouvent que les opportunités là-bas sont plus importantes et qu'il y a plus de chances d'entrepreneuriat, les gens peuvent... Il y a des conditions salariales plus élevées. Et ça, c'est tout lié à l'importance d'un cadre réglementaire, d'un cadre institutionnel qui encourage le développement économique.
C'est tellement intéressant.
La liberté économique.
C'est tellement intéressant d'aller vivre là qu'ils sont prêts à payer plus cher pour un truck pour y aller.
Bien, le gain de salaire doit être assez élevé pour compenser pour le truck, clairement.
Mais dans les genres d'écarts de prix qu'on avait, c'est-tu vraiment des écarts substantiels?
Oui, il y en a... Écoute, il y a quelques années, je n'ai pas regardé ceux dans l'article, mais il y a quelques années, je me souviens, parce que un des co-auteurs de cet article-là, c'est un ami à moi. Donc, Robert, c'est un chum. On se voit 3-4 fois par année à des conférences. On boit ensemble, ce qui est pour moi le test ultime de ce qu'on est amis. Est-ce que tu as déjà partagé un steak avec moi aussi, un test d'amitié? La réponse est qu'il a passé les deux tests. Donc, on se côtoie énormément puis on s'apprécie beaucoup. Puis, j'y avais dit il y a comme 3-4 ans, ça serait le fun que quelqu'un fasse ce papier-là. Et il dit, c'est drôle, tu dis ça, Vincent, je suis en train de le faire. J'étais comme, si que je suis content que quelqu'un le fasse, ça me fait chier que ça soit pas moi. Parce que moi, je voulais le faire, cet article-là. Vraiment beaucoup. Mais lui, il dit qu'il voulait le faire. Mais une des choses que lui voulait regarder avec ça, c'était motivé par une histoire. C'est ça qui avait parti la discussion. C'était l'histoire que pour aller de la Californie au Nevada, le prix était le tiers du prix d'aller du... D'aller de la Californie vers le Nevada, le prix était trois fois plus élevé que le prix du Nevada vers la Californie. Ce qui est assez impressionnant étant donné que le Nevada est juste à côté. C'est, la distance n'est pas particulièrement élevée.
Non, c'est ça.
Le Nevada, à part Vegas, il n'y a pas grand-chose là-bas d'intéressant. Il y a Reno, puis c'est fini. T'as pas grand-chose au Nevada. T'enlèves Las Vegas. En fait, tu regardes juste la carte du Nevada, il n'y a rien. Toutes les counties, là, ils sont toutes des affaires gigantesques où il n'y a personne. Puis là, tu vois Clark County, je pense que c'est là que Vegas est. Puis là, par contre, le county, il y a comme toute la population. Je pense que c'est comme l'État américain dans lequel il y a la plus grande inégalité de la distribution de la population dans un comté relativement au reste. Il n'y a personne qui vit à Reno, à des places comme ça, relativement à Vegas.
Non, c'est ça. Ben écoute, dans l'article, on voit là, quelques tableaux. Puis là, ça nous montre, par exemple, ben, que la moyenne du prix de location là, pour une distance donnée, c'est 1085. Comme tu disais, Dakota du Sud, c'est 729$. Qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi là-dedans? Ben, c'est ça, on voit le revenu de la région métropolitaine, on voit l'indice de liberté économique de la zone qui est étudié. Non, c'est vraiment bien fait quand même. Ça permet quand même de voir beaucoup de choses. Puis ils disent, cette note empirique a examiné les prix de location de 142 506 paires de villes aux États-Unis. Le prix de location de camions à l'essence peuvent être considérés comme une source de données utiles produites par le secteur privé, fournissant des informations actuelles et en temps réel sur les flux migratoires à l'intérieur du pays. En ce sens, ces données pourraient être utilisées de manière similaire à l'utilisation des données satellitaires sur la veilleuse et des données de l'économie numérique pour mesurer l'activité économique. Mais c'est drôle, je ne m'étais pas rendu jusqu'à la conclusion en feuilletant l'étude parce que j'étais resté stické sur les données et le tableau, mais ça m'a fait penser intuitivement à ce qu'on avait déjà jasé sur quand tu regardes la lumière, tu sais, puis on en avait déjà parlé, là, tu regardes les images de nuit de certains pays. Puis tu peux voir, dans le fond, l'activité économique puis le niveau de richesse d'une certaine manière. Puis là, le classique étant, tu regardes des images de la Corée et tu vois que la Corée du Sud est illuminée et que dans la Corée du Nord, à part un petit point lumineux où est Pyongyang, c'est l'obscurité totale en pleine nuit.
Mais Frank, dis-toi une chose. La Corée du Nord contribue très peu au réchauffement climatique.
Oui. C'est notre modèle à tous.
C'est le modèle à suivre.
Mais c'est comment je pourrais dire ça? En économie, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle, ou c'est une question de pure intuition, qui fait que des chercheurs, par exemple, utilisent ou ont l'idée d'utiliser des indicateurs comme ça ou des exemples comme ça qui ne viendraient pas à l'idée du commun des mortels. Si, mettons, tu prends quelqu'un qui est néophyte ou qui s'intéresse à ça, mais juste comme ça, puis tu lui demandes comment tu penses qu'on devrait étudier, par exemple, la mobilité entre les États, puis qu'est-ce qui fait que... Je pense pas que personne va arriver intuitivement à dire « Bon, on pourrait regarder le prix moyen d'un camion locatif ou encore, on pourrait regarder la lumière, la nuit, vue de l'espace par satellite. » C'est comme des façons très imagées, je trouve, puis efficaces d'expliquer un point. Mais je trouve ça un peu contre-intuitif, comme type d'indicateur ou comme exemple. Est-ce que c'est genre quelque chose que les économistes, certains développent au cours de leur carrière ou c'est genre quelque chose pour lequel vous êtes entraîné d'essayer de prendre des trucs comme ça? Moi, ça me fascine à chaque fois. Je me dis, tu as eu cette idée-là, puis l'autre personne avait eu l'idée aussi, mais je veux dire, c'est quand même pas une idée qui jaillit comme ça dans l'esprit de tout le monde. Là.
Je te dirais que généralement, ça dépend qu'est-ce que tu fais comme domaine, mettons, en économie, mais c'est généralement, beaucoup d'efforts sont faits pour trouver des manières originales de régler des problèmes. Donc, souvent, ce qu'on a, c'est qu'on a une question qui traîne, que c'est difficile de résoudre certains aspects avec les données telles quelles. Plus le problème persiste, plus il y a un profit à faire comme chercheur de le résoudre par d'autres moyens. Donc, par exemple, le mien que moi je connais et que moi j'utilise le plus, c'est celui qu'on sait que les dictateurs mentent sur leur économie.
Mm-hmm.
Et donc, moi, et aussi mentent des fois sur leurs statistiques démographiques. Donc, moi, j'avais trouvé une manière. Donc, j'avais passé du temps pour enquêter, pour trouver une manière de détecter les mensonges. Puis ça cause des gros problèmes d'inférence, de tests dans les régressions. Puis je me suis dit, je vais trouver une manière de régler le problème. Puis je l'ai fait pour Cuba. Ma méthode, à moi, elle devient assez populaire, la manière que j'ai trouvé de détecter les mensonges. Tu as d'autres personnes qui ont investi du temps en utilisant les données de satellites pour les lumières, pour détecter les mensonges.
Quand tu dis mensonges, le classique, c'est par exemple le taux d'alphabétisation, mettons, dans un pays donné ou la qualité.
Ou ils vont dire que le PIB est 20% plus gros que ce qui est, ou tu vas avoir quelque chose comme, en fait, un exemple qui est un peu classique, il y a deux exemples classiques que moi j'utilise souvent pour, je l'utilise quand je donne les cours de statistiques, je dis aux étudiants, garbage in, garbage out, les données, tes régressions sont aussi bonnes que la qualité des données que tu utilises, et souvent tes tests peuvent, si tu trouves que le test ne fait pas de sens avec la théorie, reviens en arrière juste pour être sûr que ce n'est pas les données qui causent le problème et non pas la théorie. Commence à être sûr que les données sont pertinentes. L'exemple classique sur le PIB que moi j'aime utiliser, c'est la Chine qui a des incitations. Donc, les bureaucrates locaux ont des incitations. Ils ont des pénalités s'ils n'atteignent pas certaines cibles de croissance économique et des primes s'ils les atteignent et les dépassent. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ben, ils trouvent des manières de trafiquer les définitions pour inclure des parties de l'économie informelle. Ils vont faire des ajustements qui jouent de leur côté. Donc, il y a des clamants des mensonges sur
l'activité. Imagine, tu peux observer ce genre de truc-là de manière beaucoup moins prononcée, mais quand même dans les démocraties. On ne fait pas de déficit, finalement, ils ont trouvé le moyen par des espèces d'artifices comptables de mettre ça sur des dépenses de très long terme, fait que finalement, ça va direct sur la dette, fait qu'officiellement, il n'y a pas de déficit, le budget est équilibré, mais en réalité, il ne l'est pas. C'est si tu comptes les entrants et les sortants, il y en a un déficit, c'est juste que vous l'avez mis sur... C'est comme si vous, dans votre maison, vous dites « Non, chérie, je n'ai pas redépensé plus d'argent que j'en ai gagné, mais il y a plein de cartes de crédit qui sont pleines. » Donc, en réalité, vous avez présenté la réalité en la maquillant un peu. Donc, je peux très bien croire que des pays autoritaires et dictatoriaux font la même chose, mais sans trop se gêner.
Les démocraties aussi le font, soit dit en passant. La Grèce, bon, qui n'est pas la démocratie la plus vibrante qui existe dans le monde occidental, là, étant donné la présence de... C'est un pays quand même assez corrompu avec un parti néo-nazi qui est rentré pendant un moment à la législature. Donc, tu sais, puis pas néo-nazi comme les gens de gauche aiment ça accuser n'importe qui n'est pas de gauche de néo-nazi, un vrai parti néo-nazi. Ouais,
il y avait un parti borderline communiste aussi, là, comment il s'appelle?
Oui, ça aussi. Ouais, ça. Donc, c'est une démocratie qui est plus fragile que les autres, mais quand même une démocratie largement dans la famille des démocraties libérales. Donc, la Grèce, ce n'est pas un régime autoritaire, mais pas un passé glorieux. Mais non, en ça. 2004, quand ils ont été admis dans l'euro, une des manières qu'ils ont été admis dans l'euro, c'est qu'ils ont menti. Il y a une règle dans l'Union européenne qui s'appelle les règles de Maastricht, que tu dois avoir un déficit qui ne dépasse pas 3 % du PIB. La Grèce a menti sur son PIB pour que ça ait l'air qu'il ne dépassait pas 3 %. Et c'est comme ça qu'ils ont été admis dans l'union monétaire, donc ils ont été admis dans l'euro. Et 2-3 ans après, ça a été détecté, mais ils n'ont pas été expulsés de l'Union européenne, soit du temps de la zone euro. Donc, ils sont restés dans la zone euro. Wow. Mais c'était une des raisons. Normalement, ils n'auraient pas dû être acceptés dans l'Union européenne sur la première. Dans la zone euro, ils n'ont pas été acceptés. Ils n'auraient pas été acceptés dans la zone euro si ça n'avait pas été du mensonge. Et ils n'auraient pas dû être acceptés. Et avec les résultats qu'on connaît un petit peu plus tard avec la crise de la dette grecque, ça leur a coûté très cher, ce mensonge-là. Donc, ce n'est pas juste les dictateurs qui mentent, c'est les démocraties aussi. Mais il y a souvent, on cherche souvent des manières de découvrir ces. Quand tu vois un problème et que tu le sais que ça ne fait pas de sens, on cherche des manières créatives de trouver une solution. Donc, ça peut être que tu utilises les prix des camions, par exemple, pour régler le problème de est-ce que c'est quoi qui détermine la migration? Est-ce que c'est la qualité? Parce que ça, c'est une grosse question en immigration. C'est est-ce que c'est une place qui est déjà développée, attire énormément de gens, indépendamment de la qualité des institutions? Et l'exemple classique de ça, c'est ce qu'on appelle « second nature », un peu. L'exemple classique qui est donné, c'était les deux villes japonaises qui ont souffert de la bombe atomique, qui est à toute pratique une destruction complète. Et ce qui était testé, c'est que est-ce que les gens vont vers les villes à cause que les villes ont des avantages naturels est-ce que c'est parce qu'une fois que la ville est établie, la ville a des avantages qui attirent les gens, peu importe. Right? Donc, tu pourrais être une ville mal placée, mais une fois que tu es là et qu'il y a beaucoup de gens, les gens viennent quand même. Donc, c'est juste que tu as réussi à construire. Est-ce que c'est donc la première nature, l'état géographique, qualité du terrain, il y a une rivière au milieu de la ville, etc. Peu importe. Les caractéristiques fondamentales, ou est-ce que c'est les caractéristiques acquises, donc la seconde nature? Et un article qui est très connu a testé si c'était après la bombe atomique, est-ce que les gens sont retournés vers les deux villes? Et la réponse, c'est oui. Donc, la première nature avait l'air d'être un big deal. Bien, ici, la question des institutions, c'est est-ce que des endroits comme qui seraient, donc disons, la Californie est un endroit qui s'est développé pendant longtemps. Les gens ont été vers la Californie largement à cause au début du rush vers les mines d'or, vers l'accès au Pacifique, donc il y avait des avantages naturels à la place. Mais est-ce que c'est possible un jour, tu sais, de faire en sorte que tu puisses attirer des gens vers toi au lieu de la Californie si tu es le Dakota du Nord ou la Floride, qui était à toute fin pratique il y a 40 ans, était un marécage? Parce qu'il ne faut pas oublier que la Floride, ce n'est pas un endroit exactement très habitable.
Tu as raison dans l'exemple que tu donnes, c'est que techniquement, tu sais, je veux dire, si vous êtes allé dans les deux places dans votre vie, la Californie,
c'est un
paradis sur Terre. Le climat est... C'est pour ça que c'était ridicule, l'espèce d'article débile de Radio-Canada qui nous disait qu'il y avait des réfugiés climatiques qui allaient vivre quasiment à Vancouver pour se sauver de la Californie. T'es comme, d'après moi, c'est plus des réfugiés fiscaux que d'autres choses. C'est parce que... Puis quand tu vas en Floride, c'est humide, c'est lourd. Il y a beaucoup de problèmes en Floride reliés à au vieillissement prématuré de les tornades, les ouragans, tout ça. Il y a beaucoup de vieillissement prématuré de certains biens à cause de la rouille, à cause du taux d'humidité dans l'air qui est débile.
Ah oui, ça aussi. J'avais pas pensé à ça.
Il y a beaucoup de coûts reliés à ça. Je regardais un espèce de documentaire à un moment donné, puis ça parlait de ça, là, du fait que, mettons, en Floride, ils sont obligés de changer beaucoup plus souvent qu'ailleurs certains biens, même dans les infrastructures, des trucs qui rouillent prématurément à cause d'un degré d'humidité qui est beaucoup plus élevé, mettons, qu'en Californie. Fait que s'il y a des gens qui foutent le camp de la Californie pour aller vivre en Floride, malgré ce truc-là, c'est qu'ils ont un avantage qui est comme de l'ordre de l'acquis et non pas qui est juste naturel, juste un choix, mettons, pour le paysage, exactement, le climat. Puis,
Ben c'est ça. Là, la question, c'est que si c'est la première nature versus la deuxième nature, ça veut dire que tu as un élément de contrôle humain sur où est-ce que les gens vont vouloir migrer vers. Donc, si, disons, tu es capable d'attirer les gens, ça veut dire que c'est quoi que tu offres comme service? Est-ce que tu offres des biens publics qui ne sont pas disponibles à l'autre part? Est-ce que tu les offres à des coûts fiscaux plus bas? Est-ce que tu es capable aussi de créer un environnement créatif? La réalité, c'est que la Floride, le Texas, présentement aux États-Unis, ce sont les États qui ont énormément de croissance économique. Aussi, il y a des places présentement que c'est... Tu ne penserais jamais que c'est des endroits à haute croissance, mais le Wyoming, donc qui ne compte pas pour beaucoup dans les États-Unis dans son ensemble, parce que c'est 500 000 personnes à peine, je pense. Je ne sais pas c'est quoi le chiffre, mais c'est l'État le plus petit des États-Unis en termes de population. Donc, s'il y a une croissance rapide, ça ne se voit pas dans les chiffres nationaux. Ouais. Mais ça quand tu regardes la... Mais les endroits à haute liberté économique aux États-Unis présentement sont largement en train de compenser pour le fait que la Californie est presque en état de stagnation du revenu par personne. Même chose pour l'État de New York. Même chose pour le Massachusetts. Mais des petits États à plus haute liberté économique. Puis présentement, ça ne se voit pas dans les données nationales. Mais ce que tu vois présentement, c'est que ça crée quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. De 1850. Ouais,
je le vois ici, là, le Wyoming, c'est 578 000 personnes, mais tu vois les chiffres de la démographie là, sur l'historique des recensements, là tu vois le même, ça fait longtemps que c'est le même, mais de ce que je comprends, là, tu vois début 1900, puis tout ça, là, tu vois, regarde, plus 47%, plus 57%, plus 33%. D'augmentation de la population. Le même, dans les chiffres plus récents qu'on a, plus 14, plus 8,86. Donc, c'est quand même...
Ils ont une très bonne croissance.
Mais c'est sûr que dans des villes où il y a 28 000 personnes, une croissance de 32%, ça paraît pas tant que ça, là, tu sais, au global. Fait que
ça se voit. Mais au final, ce qui se passe aux États-Unis présentement, c'est que les gens se déplacent vers des États qui étaient généralement plus petits dans le passé parce que leurs institutions ont créé l'effet de seconde nature qui compense pour les avantages de première nature de la Californie, de l'État de New York. Les gens oublient, mais New York, la première nature de New York, c'est qu'il y a un port incroyable qui est là. Il y a énormément d'activités qui se développent là. Donc, c'est quand même assez impressionnant que la première nature réussit à être en train de, au minimum relativement à la Californie, est en train d'être dominée par le rôle des institutions, donc les secondes natures dans les autres endroits, à attirer des gens, mais aussi à attirer du développement économique. Puis un des effets qui n'est pas mentionné, mais si tu regardes, si tu as un indice d'à quel point les États sont proches l'un de l'autre en termes de niveau de revenus, tu regardes de 1850 vers 1980, ça n'arrête pas de baisser. Donc, les États se ressemblent de plus en plus. Mais depuis les années 80, tu as l'inverse qui se passe. Que tu vois qu'il y a une divergence entre les régions des États-Unis, avec les États qui étaient anciennement des plus petits États, commencent à grossir. On oublie que la Floride n'était pas un État avec énormément de gens il y a 40 ans. Le Texas, oui, a toujours été relativement gros, mais n'a pas toujours été aussi gros qu'il ne l'est maintenant relativement aux autres. Tu as des petits États comme l'Oklahoma, qui attire énormément de gens, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, le Nevada, l'Utah, des États qui sont très petits en termes de population, qui commencent à avoir des croissances démographiques assez impressionnantes relativement aux autres. C'est quand même assez...
Un graphique à l'écran parce que c'est assez parlant. Là. L'évolution de la population de la Floride de 1830 à l'an 2000, c'est assez... comparé les années 2000 aux années 60, mettons, là, c'est assez particulier. Là,
demande à Google de te donner la population de l'État de New York, juste pour voir. Je te jure, je ne dirais pas c'est quoi la réponse, là, parce que tu vas comparer, là, les gens portaient en tête que la ligne pour la Floride, c'est une belle ligne qui augmente, là. Mais si tu écris Google New York State Population, puis tu le montes à l'écran, je te jure que tu vas voir le contrat. Exactement.
Ouais, c'est 19,84 millions en 2021.
Mais la ligne, elle a l'air d'être ce que tu as quand tu es à l'hôpital. Tu es dans un hôpital québécois trop longtemps.
Ouais, pas très dynamique, là. En tout cas, ce que je vois à l'écran, là, c'est pas...
C'est une ligne plate. C'est une ligne très plate. Il n'y a aucune évolution. La population de l'État de New York est restée stable.
C'est ce qu'on voit dans le...
Plus ou moins depuis comme quoi? 1980, 90? Ouais. Il n'y a pas d'augmentation de la population.
Puis tu vois, la ligne orange qu'on voit en petit en arrière, c'est la Californie, là. Mais quand tu vois comme faux, tu la vois baisser, là. Depuis plusieurs années ici, là, tu vois que ça, c'est en train de partir de l'autre bord, là.
Ouais, ben la dernière, entre les deux derniers recensements à la Californie, entre 2010 et 2020, la Californie, si je ne me trompe pas, a eu un déclin de population. Je suis 90% sûr de ce que je mentionne, parce qu'il y a eu des conversations de ça, mais la Californie a eu sa première perte. C'est soit ça ou c'est la première fois qu'ils ont perdu un député. Donc, dans l'apportionnement du Congrès, ils ont perdu un siège. Relatif. Fait que c'est soit ça, soit ce qui, dans les deux cas, est un signe de déclin démographique relativement aux autres, ou dans le deuxième cas, si c'est la population qui a baissé, c'est un déclin absolu, pas un déclin relatif.
Je vais te dire ça, j'ai un article là-dessus. The population of California declined again. In 2022, the state population drop, c'est 138 400 personnes de moins en 2022. Et depuis, qu'est-ce que j'ai un graphique là-dessus qui peut être intéressant à montrer? The state population pique 40 000 de moins en janvier 2020. Et là, ils ont passé sous la barre des 40 millions pour la première fois depuis quelques années. Là.
Mais, en tout cas.
Donc, ils avaient atteint 40 millions de leur population, et maintenant, selon le dernier recensement, sont à 38,94. Donc, ils ont perdu, là, dans les dernières années, là, plus ou moins 1 million de personnes qui ont sacré le camp.
Ah, mais ça, c'est tout des réfugiés climatiques.
Oui, oui, c'est ça.
Il n'y a pas de raison fiscale ou réglementaire. Les gens, quand ils quittent une place, c'est vraiment... Mais tu sais, au final, tu pourrais dire ça si tu crois vraiment à l'argument de première nature. Mais la réalité, c'est que quand on commence à regarder dans les débats sur la migration, je te dirais que depuis 20-30 ans, on commence à plus apprécier le rôle de la deuxième nature. Donc, ouais. On est conscient que, oui, il y a un rôle de première nature important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de rôle de première nature, mais le rôle de la seconde nature est assez quand même important, peut-être souvent beaucoup plus, surtout que c'est la celle sur laquelle l'être humain a un contrôle. Je n'ai pas de contrôle tant que ça sur la première nature de l'environnement. Peut-être qu'on peut, tu sais, façonner le territoire en ayant de... En construisant des systèmes d'irrigation, mais là, tu sais, c'est plus vraiment première nature. C'est que tu as utilisé des éléments de première nature pour créer de la seconde nature. Au final, la seconde nature, c'est ce que l'être humain a un contrôle dessus. Donc, si tu en viens à dire que ce que tu peux faire, c'est que tu pourrais rendre l'Alaska la place vers laquelle tout le monde voudrait aller. Ben, tu pourrais rendre la ville de Québec intéressante à déménager vers.
Ben, si
tu avais des bonnes institutions, malgré que la ville de Québec est frette, est trempe, n'est pas le fun, mais tu pourrais la rendre, tu pourrais l'améliorer si tu avais des bonnes institutions. Donc, c'est-à-dire, je veux dire, j'aime ça taper sur Québec parce que je suis un Montréalais, puis c'est génétique.
Un sud
Montréalais. Merci de me le rappeler qu'il faut que je fasse attention à ça. Mais l'idée quand même, au final, qui revient, c'est que l'être humain a un élément de contrôle sur les institutions. Et comme il y a un élément de contrôle sur les institutions, tu peux ensuite attirer les gens vers ces endroits-là, même si c'est des endroits que naturellement l'être humain ne serait pas disposé à dire qu'il veut aller là. Aznavour disait « la misère est moins pénible au soleil », mais des fois, tu peux rendre un endroit très froid, très confortable, si tes institutions créent de la richesse, créent du développement, qui compensent bien plus que compensent, vicient tous les effets négatifs de la géographie désavantageuse.
Ben, tu sais, la preuve de ça, c'est que les Américains et les Canadiens paient quand même des gros prix pour aller faire des voyages dans des pays où ils n'iraient jamais vivre pour des raisons d'institution et où les gens là-bas rêvent de venir vivre.
Ici.
De l'endroit d'où proviennent les touristes. Mais tout le monde a compris que, tu sais, si, mettons, tu avais des îles dans les Caraïbes pour
quelque chose comme ça.
qui avaient des... où il faisait bon vivre pour des raisons de liberté d'institution, ben, ce serait des destinations de choix pour plein de gens. Là. Et où il y avait un niveau de vie... Tu sais, imaginons que vous avez une île dans les Caraïbes où il y a un niveau de vie qui est comparable, on va dire, à celui d'un État américain ou d'une province canadienne, mais où tu risques pas de te faire enlever par un cartel ou ce genre de truc. Ce serait des destinations où tout le monde voudrait aller vivre parce que c'est un climat parfait. Je veux dire, il n'y a pas d'hiver, il y a... bon, OK, tu peux rajouter là-dessus, bon, il y a quand même une saison d'ouragan, donc il y a un risque de te faire péter ta propriété. Mais en même temps, beaucoup des dommages qui sont causés dans ces endroits-là viennent aussi du fait que les infrastructures, tout ça, sont un peu construites avec les moyens du bord parce que les gens n'ont pas les... T'sais, parce que si ça se construit, là, je veux dire, la Floride a fait beaucoup d'efforts là-dessus. T'sais, quand il y a un ouragan qui passe en Floride, ça ne cause pas les mêmes dommages qu'en République dominicaine. Parce que, les normes de construction et la qualité des infrastructures est de très loin supérieure là-bas. T'sais, entre autres, les gens ne l'ont peut-être pas remarqué, mais si vous allez en Floride, la plupart des bâtiments, ben, les bâtiments que tous construits après une telle date, là-bas, vous rentrez pas chez les gens, vous ouvrez la porte. Et ça, c'est entre autres, ça a été pensé pour que, justement, quand des vents très forts arrivent, la porte, elle peut pas rentrer, elle peut pas défoncer par en dedans puisqu'il faut que tu l'ouvres, comme une porte de commerce. Et ça, ça a été pensé pour, justement, les ouragans, les vents très violents, tout ça, c'est que, dans le fond, les portes se faisaient défoncer. Parce que si la porte... La physique fait que si tu dois ouvrir pour rentrer chez les gens, la serrure peut lâcher en cas de grand vent, mais si le vent pousse dans la porte, mais qu'elle s'ouvre comme ça, elle peut pas briser.
Ben, le pire, c'est que je suis prêt à parier 500$ qu'il n'y a aucun code du bâtiment qui dit que c'est comme ça que ça doit être fait en Floride.
Non, c'est pas très probablement une initiative. Ben, amener les gens ont juste allumé que ça pourrait être intelligent de faire ça de même.
Oui, je suis sûr qu'on peut checker, puis je suis sûr que tu ne trouveras pas ça. Ou bien que ça a été inclus dans les codes après que tout le monde s'est mis à faire ça. C'est souvent quelque chose en passant que les gouvernements en font. Les gens vont se dire, regarde, c'est la preuve que l'État a fait quelque chose de bien. Oui, mais des fois, souvent, l'État fait juste copier ce qui se faisait déjà et il codifie la chose. Quand tu parles des ouragans et des dommages environnementaux qui viennent de chocs, d'événements extrêmes, il faut quand même souligner que le sud des États-Unis, ce n'est pas un endroit excessivement hospitable, c'est quoi en français? Accueillant.
Accueillant, oui.
Ce n'est pas un endroit accueillant, le sud des États-Unis. Même la Virginie, qui est dans le nord du sud, de toute fin pratique, n'est pas un état très physiquement accueillant. Présentement, il fait 37 dehors. C'est humide. C'est un 37 humide. Tu as des journées qui sont... Tu peux juste pas sortir. Tu peux juste pas sortir travailler. Il y a des journées même que les employés de la ville, après une certaine température, la ville ne leur permet pas de travailler tout simplement parce qu'un travailleur qui fait des travaux physiques à cette température-là aurait une insulation, aurait des dommages physiques très graves. C'est juste pas travaillable.
C'est pour ça que ça me fait tout le temps un peu rire quand les gens parlent de canicule au Québec alors qu'il fait 28 dehors.
Oui, mais il y a un article en économie que j'aime énormément sur le rôle de l'air climatisé dans le sud des États-Unis. Le rôle de l'air climatisé dans le sud des États-Unis a eu un effet sur attirer de l'investissement parce que quand tu dois considérer où est-ce que tu t'établis, tu considères toutes les caractéristiques qui sont en jeu, donc le salaire, oui, mais les inconforts qui viennent de la place. Avant, si tu voulais attirer quelqu'un du capital de venir du Nord, donc si je suis un manager puis il faut que j'amène avec moi mes ressources pour ouvrir une firme en Caroline du Sud, par exemple, bien, il faut que je vienne avec la firme, mettons. Bien, il faudrait que tu m'offres un rendement plus élevé parce qu'il va y avoir un inconfort pour moi d'être dans une place qui est hautement inconfortable. Même chose pour des travailleurs que tu voudrais attirer vers la Caroline du Sud, par exemple, parce que c'est trop chaud, c'est juste inconfortable. Tu as aussi beaucoup plus de malaria dans le sud des États-Unis, soit dit en passant, historiquement. Mais l'arrivée de l'air climatisé a plusieurs effets. C'est que ça rend le sud beaucoup plus habitable. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des études qui ont testé ça vraiment avec des mécanismes économétriques pour voir si tu avais de la migration de capital vers le sud des États-Unis et de la migration de travailleurs vers le sud des États-Unis. La réponse, c'est oui, c'est que l'air climatisé a permis au sud des États-Unis de devenir plus habitable et donc d'attirer des gens.
Mais, ça doit être valide pour le tourisme aussi, ça. Là. Parce que tu sais, les destinations touristiques maintenant qui sont des endroits où personne ne serait jamais... Je veux dire, personne ne va aller en vacances à Dubaï s'il n'y a pas d'air climatisé dans sa chambre d'hôtel. Je connais des gens qui y sont allés, puis tu peux te taper un bon 50 au mercure dans une journée chaude. Là, si vous n'avez pas d'air climatisé dans votre Airbnb, dans votre chambre d'hôtel, je suis désolé, en tout cas, moi, je ne reste pas là.
Non, mais tu sais, il y a une raison, je vais revenir là-dessus après pour un exemple historique, mais quand les gens vont dans ces états-là depuis, pourquoi est-ce que tu pouvais te permettre l'air climatisé? Parce que tu es dans un pays riche pour commencer. Donc, tu avais. Le sud des États-Unis était pauvre, mais l'invention de l'air climatisé a quand même permis aux Américains du Sud de pouvoir investir dans de l'air climatisé. Donc, le développement économique lui-même permet de conquérir les avantages de certains autres endroits. Donc, si toi, tu as un inconvénient relativement à un autre endroit, tu peux le conquérir et donc l'annuler. Celui dont ton désavantage, ou même si tu as juste un désavantage absolu, pas juste un désavantage relatif, tu peux l'éliminer par le développement économique, tu peux le nullifier. Et donc, par exemple, il n'y a personne qui vivrait il n'y aurait pas autant de gens qui vivraient en Virginie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Géorgie, en Alabama, au Mississippi, en Floride, si ce n'était pas de l'air climatisé. Tu n'aurais pas autant de gens qui vivraient dans ces endroits-là parce qu'ils sont fondamentalement inconfortables sans les avantages du développement économique. Donc, tu sais, quand les gens, là, on revient à l'exemple de pourquoi les secondes natures pourraient compter beaucoup, plus tu permets le développement économique, plus tu permets de minimiser l'importance de la première nature. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle, par exemple, les Bermudes, qui ne sont pas un environnement excessivement plaisant à vivre, parce que l'île est un peu isolée. Mais si les Bermudes devenaient un endroit, et j'aimerais bien ça, hautement libre économiquement, avec des bonnes institutions, des bons droits de propriété, des faibles taux de taxation, de la faible réglementation, une ouverture au commerce international, une bonne politique monétaire, mais tu aurais beaucoup de gens qui se diraient, ben je vais venir investir dans les Bermudes. Je vais faire des investissements aux Bermudes. Et là, les Bermudes se développeraient. Les désavantages de la nature, donc la saison des ouragans, l'isolation un peu géographique pourrait être à toute fin pratique, réduite, éliminée. De la même manière.
Je suis allé il n'y a pas si longtemps que ça aux îles Caïmans. Là. Et je t'annonce que c'est beaucoup, 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 beaucoup moins délabré et pauvre que d'autres îles. Tu sais, tout le monde parle de ces endroits-là. Là. Hey, c'est pas drôle, c'est des paradis fiscaux, tout ça. Ben ouais,
Non. C'est un anti-enfer fiscal.
Ben, c'est ça. Puis là, tu sais, là-bas, il y avait des. Je suis allé dans un endroit, tu sais, c'était genre un gars, un Canadien qui avait ouvert une distillerie là-bas, puis il brassait du rhum. Là, j'étais comme, mais genre, dans quel monde un. Tu sais, je veux dire, il peut juste avoir des raisons fiscales qui expliquent que quelqu'un foute le camp du Canada pour aller vivre dans une île pour faire brasser du rhum. Tu sais, c'est, je veux dire, pourquoi il est rendu là, là, tu sais. Mais clairement, on comprend qu'il ne serait pas allé faire ça à Cuba, ni en Haïti, ni en République dominicaine. Il a choisi cet endroit-là parce que probablement il fait bon vivre là-bas. Là.
Puis d'ailleurs, soulignons que les îles Caïmans ne sont pas aussi confortables que Cuba l'est naturellement. Il ne faut jamais oublier que Cuba était le joyau des Antilles pendant très longtemps. C'était la place où c'était le fun d'aller. Et on peut remercier les Castro d'avoir mis fin au party. Hein, ouais. On avait trop de fun, il fallait que quelqu'un exagère.
Mais tu parles de l'air climatisé, là, mais tu sais, aujourd'hui, on prend ce truc-là pour acquis. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a à peine. Il y a à peine une vingtaine d'années, ben soyons fair, disons, mettons 25 ans à peu près, là. C'était clairement l'air climatisé, une manière d'afficher sans le vouloir, là, mais c'était une façon que tu avais de repérer les gens qui font partie de la classe moyenne supérieure. Et ah, en oui. montant. Tu sais, je veux dire, quelqu'un, moi quand j'étais kid, si tu allais chez des amis puis le parent avait une voiture avec l'air climatisé, tu savais que les parents de tes amis avaient de l'argent. L'air climatisé et les vitres automatiques. Ça voulait dire que quelqu'un a de l'argent. Parce que moi, mes parents, il n'y avait pas d'air climatisé. Je me souviens, la première voiture qu'on a eue qui avait l'air conditionné, c'était un genre de caravane dans le début des années 2000. Avant ça, tu payais des extras là, pour avoir l'air climatisé. Puis dans la maison, les gens avaient des cossins genre dans les fenêtres. Là. Mais comme tu vois aujourd'hui que genre une maison sur deux a un truc après mural avec une thermopompe dehors, ça, c'est récent. Là. Si tu vas dans les années 90 au Québec, personne n'a ça.
Écoute, j'ai été sur, parce qu'on en parle, là, tu m'as donné envie de checker, j'ai regardé le pourcentage de maisons qui ont aux États-Unis, des ménages, pas de maisons, excuse-moi, qui ont de l'air climatisé dans leurs installations. Aux États-Unis, c'est 89 % au recensement de 2020. Et c'était, je l'avais pour un autre recensement avant, c'était 60 % en 1990. Par contre, l'État qui a le moins d'air climatisé, puis tu vas capoter, l'État qui en a le moins d'air climatisé, tu vas faire un guess?
L'État qui en a le moins? Ben là, j'aurais tendance naturellement... J'aurais tendance à dire un État plus au nord à cause du climat. Mais ouais, l'État qui en a le moins, genre ça doit être le Mississippi ou un truc de même. Là.
Non, Mississippi n'est même pas dans la liste du top 10.
OK, ben écoute, je ne sais pas.
Californie.
Ah ouais.
Californie. Il y a presque 25 % des ménages en Californie qui n'ont pas d'air climatisé. La Floride, il y a à peine 2 % des ménages qui n'ont pas d'air climatisé. Ça veut dire que quand tu regardes, là...
Mais ça ne me surprend pas l'écart entre les deux, parce que la Floride, pas d'air climatisé, c'est invivable.
Et la Californie aussi, c'est invivable sans air climatisé, je m'excuse, là, mais...
Ouais, mais c'est pas une chaleur humide comme en Floride, là.
Tu essaieras de dormir à 35 degrés Celsius sec ou humide. Tu dors pas dans les deux cas.
Ouais, mais c'est ouais.
Sec ou humide, tu dors pas à 35. C'est plus confortable dehors, c'est moins pénible de travailler un petit peu dehors. Mais au final, tu dors pas la nuit. C'est ça, le confort de l'air climatisé, c'est largement pour dormir. Tu regardes la plupart des gens, quand est-ce qu'ils font runner leur air climatisé? C'est quand ils sont à veille de se coucher.
Non, c'est sûr. Moi non plus, dormir... Moi, plus il fait fret, mieux je dors.
Ouais. Mais tu vois, mais regarde, étrangement, la Californie a des avantages naturels incroyables, mais ses politiques absolument atroces font que les choses qui pourraient te permettre de conquérir la première nature, les gens ne peuvent pas le faire, ces investissements-là, pour conquérir la première nature, à cause des politiques publiques qui découragent l'investissement, l'investissement notamment en énergie. Donc, le résultat est que les Californiens décident de ne pas acquérir ces ressources-là et vont donc décider probablement, si c'est possible, de déménager.
Tu parlais des,
seconde nature.
Tu parlais des statistiques là, tantôt, par exemple, avec Cuba ou avec la Chine ou tout ça, puis on a dit que ça existait aussi dans les démocraties ou les régimes qui ne sont pas directement des autocraties. Ça m'a rappelé un article que j'avais lu il n'y a pas si longtemps sur justement les chiffres d'inflation en Turquie. Qu'on disait que, bon, là, il y a genre un an, parce que la Turquie, l'inflation, c'est capoté, là, mais il y a genre un an, les chiffres qu'on avait, c'était genre aux alentours de comme 80 ou 100 % d'inflation en Turquie. Et là, le gouvernement est arrivé et nous a dit « Ah, là, on est passé sous la barre des 40 %. Ça va bien, là, on est dans la bonne direction. » Puis là, ils nous disent, ce que je lisais dans l'article d'un journal français, ça disait « Cependant, des économistes d'un groupe de recherche sur l'inflation, l'ENAG, contestent les chiffres du gouvernement. Selon eux, l'inflation annuelle s'établit entre 105 et 109 % en prenant en compte ou non la gratuité du gaz. » Le président Erdogan, qui entame un troisième mandat, a dit vouloir faire la lutte contre l'inflation sa priorité. Celle-ci avait dépassé les 85 % à l'automne.
Généralement, là, les chiffres de statistiques dans des pays comme la Turquie, puis l'Argentine, par exemple, ou le Venezuela, c'est de la bullshit. Ils sont vraiment pas fiables.
C'est pour ça que moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, honnêtement, je ne sais pas si le groupe qui critique le gouvernement est fiable. Mais ça ne me surprendrait vraiment pas que la Turquie, genre, taponne les chiffres pour des raisons électoralistes. Passer de 100 % d'inflation à 40 en l'espace de quelques mois, je ne sais même pas si c'est techniquement possible. Là,
En fait, oui, ça l'est. OK, on va mettre deux choses en premier. Fait, continuons sur le mensonge, puis après ça, comment tu coupes ce qui est fondamentalement proche de l'hyperinflation? Parce que l'hyperinflation, il y a une définition formelle qui est 50 % par mois. Okay? Donc, c'est... C'est pas 100 % par année. Là, okay? C'est 50 % par mois, c'est de l'hyperinflation. Mais tu sais, quand tu es à 100 % par année, tu n'es pas proche de l'inflation, mais tu n'es pas loin non plus. Là. Les mensonges, généralement, c'est parce que il y a souvent des contrôles de prix, il y a souvent des trucs additionnels qui complexifient l'évaluation. Donc, c'est comme l'exemple du thermostat que j'avais donné dans le passé, qui n'est pas mon exemple à moi, c'est un exemple de Milton Friedman. Tu dis, ben il n'y a pas d'inflation, garde, j'ai contrôlé les prix, donc les prix ne peuvent pas augmenter. Ben, ça, ouais, c'est comme vrai. Te dire, j'ai cassé le thermostat, donc la température a arrêté de monter parce que je l'ai cassé. Non, non, la température continue de monter, c'est juste que le signal maintenant ne vaut plus rien. Tu ne peux plus le mesurer aussi facilement. Donc, tu as souvent ça. Mais la manière qu'on a de tester s'il y a vraiment des mensonges, c'est qu'on a les marchés noirs. Et sur les marchés noirs, on sait c'est quoi le taux de change entre une monnaie qui est stable ou plus ou moins stable comme le dollar américain et comment est-ce que, combien de la monnaie dévaluée du pays, de la monnaie nationale, tu as besoin pour acquérir un dollar américain. Donc, tu peux te servir des variations dans le taux de change sur le black market, donc le shadow exchange rate, et tu peux t'en servir pour dériver de ça le taux d'inflation. Pas dire que c'est 100% précis, mais tu peux avoir ça. Il y a d'autres manières. Il y avait un gars, il y a quelques années, qui avait fait du web scraping. Donc, ils étaient capables de trouver sur des sites web argentins, par exemple, le vrai taux d'inflation. Puis, ça ressemblait un peu à ce que tu trouvais avec les taux de change sur les marchés noirs. Mais au final, tu peux le voir comme ça. Et je suis sûr que si on trouve un site qui compare le Shadow Market Exchange Rate, je suis sûr que la Turquie doit être encore dans les eaux. Maintenant, sur comment tu coupes une inflation qui est extrême, il y en a des scénarios dans l'histoire où est-ce que tu as eu une stabilisation fiscale assez, assez radicale. L'Allemagne, après la Première Guerre mondiale, est un exemple incroyable de ça. Tu avais de l'hyperinflation en Allemagne et ça n'a pas pris longtemps pour que ça se termine comme ça. Ils ont juste immédiatement arrêté les émissions de monnaie additionnelle. Donc, ils ont arrêté d'augmenter l'offre monétaire. Et une fois que l'offre monétaire a arrêté d'augmenter, tout ce qu'ils ont dit, c'est bien, on va émettre des nouveaux billets, mais tous les nouveaux billets, on va couper un certain nombre de zéros, puis on va les ramener à des chiffres qui sont calculables mentalement. Mais on va juste arrêter. Tu peux l'arrêter très rapidement, l'inflation. Si tu décides demain matin de dire je n'augmente plus la masse monétaire, right, et que je coupe tout ça à zéro, et tous les billets qui sont... Parce que, regarde, je te le dis d'exemple comme ça, tu as une inflation de 50% par mois, et ce que je te dis, c'est que à partir de maintenant, je n'ajoute aucun dollar additionnel dans l'économie. Okay, donc, l'impression de monnaie arrête immédiatement. Tous les billets qui vont être issus à partir de demain vont être genre 1, 2, 5, 10, 15, 20, 100. Tous les billets qui étaient là avant, on va couper... tous les biens imprimés avant cette date-là vont être coupés. Vous devez, quand vous les changez, on va le couper par un facteur de 25, mettons, ou 35, pour qu'ils reviennent à la même base, right? Mais au final, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de mettre un terme à l'inflation. Tu vas avoir des billets qui vont être étranges, qui vont dire 50 trillions de trucs, ou tu avais les Italiens qui avaient ça. Dans le temps, tu avais une lire, tu n'achetais pas une lire, tu achetais 1000 lire. 1000 lire, c'était à peu près 1 $. Mais ça, c'était parce que tu avais eu un épisode d'inflation très forte en Italie. Et eux n'avaient juste pas changé la base numéraire. Donc, c'est juste le chiffre qui était de base. Mais ils avaient arrêté l'inflation en arrêtant d'imprimer de l'argent. Tu peux l'arrêter immédiatement parce que l'inflation, tout ce que c'est le taux de changement dans les prix. Après ça, si tu arrêtes de faire changer la masse monétaire, tu peux dire à tout le monde, arbitrairement, tous vos billets maintenant, on va couper le billet. S'il dit 1 $, c'est 50 cents, bien, les prix vont s'ajuster pour que ça soit 50 cents. Tout ce que tu fais, c'est que tu changes juste l'unité d'acompte, ce qui ne veut rien dire. Mais l'unité économique, la valeur économique d'un dollar, là, dans ce cas-là, va être stabilisée. Tu as juste besoin, c'est vraiment stupide, tu as juste vraiment besoin d'arrêter d'imprimer de l'argent. La question, c'est comment tu le fais. Ça, c'est ça le gros débat. Parce qu'il n'y a pas de débat sur comment tu arrêtes l'inflation. Tu arrêtes d'imprimer de l'argent, point barre. La question, c'est comment tu peux réussir à le faire que ça soit un épisode pénible. La vertu un peu d'une hyperinflation, d'une certaine manière, c'est que c'est tellement coûteux l'hyperinflation en soi que peu importe ce que tu fais qui arrête d'imprimer de l'argent, c'est mieux.
Ouais, c'est ça. Mais... peu importe le traitement choc, tout le monde s'entend pour dire que c'est moins pire que la maladie.
Exactement. Ouais. Alors que d'inflation à, disons, 5 à 20 disons. Je ne suis pas un macro, mais je me souviens de mes cours de macro, de maîtrise puis de doc. Dans une zone plus basse, c'est beaucoup plus difficile de revenir à la stabilité des prix que d'autres choses parce que là, tu as comme une sorte Mais comment est-ce qu'on fait ça sans que ça fasse une récession, sans que ça fasse... Ouais. Parce que la récession...
Ça pose toujours un peu... c'est l'exemple de ces pays-là, comme la Turquie, ça pose toujours la même question, à mon avis, c'est l'indépendance des institutions... tout ce qui est politique, économique, leur indépendance, parce que tu regardes, je suis en train de lire en diagonale là, pendant que tu parles, et ça dit que juste dans l'année 2019, la Turquie a remplacé 4 fois le directeur de sa banque centrale parce que Erdogan, lui, pense que les taux d'intérêt et l'inflation, ça n'a pas de lien ensemble. Et là, la valeur de la livre turque s'est effondrée. Et là, finalement, ils se sont finalement décidés par remplacer le ministre de l'économie, puis ils l'ont mis par quelqu'un qui a l'air de connaître ça un peu. Ils ont remplacé le directeur de la Banque centrale. Et là, imagine-toi, ils ont remonté les taux à 8,5% et après à 15%. C'est des mouvements quand même. Ça, c'est aussi un truc qui est assez typique de ce genre de régime-là, c'est des mouvements très drastiques et des revirements de situation. Tu sais, ici, on a fait tout un cas de genre augmenter par coup de 0,25, puis qu'est-ce que ça va causer, tu sais, puis tout le monde est attentif à ce truc-là. En Turquie, regarde, la Turquie relève son taux directeur à 15% dans un revirement politique majeur. Et là, les taux étaient à 8,5 et du jour au lendemain, la réunion du comité de politique monétaire depuis la réélection du chef d'État turc en mai s'est rencontrée. Ils ont décidé de faire passer le taux directeur de 8,5 à 15% d'un coup sec. Là, t'es comme, ben, c'est... Ça, tu verrais pas un truc de même dans... Ben là, je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression que tu pourrais voir un truc de même dans une démocratie...
Non, tu pourrais pas voir ça. Mais en même temps, c'est là que... Puis là, c'est... OK, je vais donner un contexte. Présentement, en Argentine, puisque l'Argentine offre un parallèle assez intéressant, l'Argentine a une élection présidentielle présentement, et un des candidats à l'élection présidentielle qui a littéralement une chance de gagner, c'est Javier Milei, qui est un libertarien hardcore. Et une de ses propositions, c'est d'abandonner le peso. Donc, okay. Que le peso disparaisse comme unité de monnaie et que l'Argentine... Ben, pas qu'il disparaisse, c'est que l'Argentine se dollarise. Okay. C'est-à-dire que la monnaie officielle de l'Argentine devient le dollar américain. Et il y a vraiment des chances de gagner. Il est en troisième place, mais une troisième place serrée avec la deuxième. Ouais. Si le candidat au premier tour n'a pas 45%, ou je pense que c'est 40 ou 45%, il faut qu'il y ait une certaine règle. C'est pas besoin d'avoir un deuxième tour. Si tu gagnes, par exemple, je pense avec 40%, mais tu as plus que 15 points d'écart avec la deuxième place, tu as gagné. Mais si tu as comme 3 points d'écart avec la deuxième place, là, il y a un deuxième tour. Mais là, il y a une chance d'avoir un deuxième tour puis que lui pourrait se qualifier au deuxième tour. Et lui, sa proposition principale, c'est de dollariser l'Argentine parce que le taux d'inflation en Argentine, tel que le gouvernement le dit, c'est 20%. Mais quand tu regardes le black market rate, c'est à peu près 100%. Donc, tu es dans les mêmes eaux que l'Argentine. Et c'est largement parce que le gouvernement manipule énormément la structure des marchés, imprime énormément d'argent et essaye aussi un paquet d'autres affaires qui ne font pas de sens. Mais la raison qu'ils font ça, c'est que la dette de l'Argentine est ingérable. Et ce que tu fais en faisant une inflation comme ça, c'est que tu réduis la valeur de tes obligations. Et donc, c'est une manière de faire défaut à toute fin pratique, de faire banqueroute sans dire que tu fais banqueroute. On était en train de le faire quand même. Mais Milei, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on va dollariser. Et on n'aura plus besoin d'une banque centrale. On n'aura plus besoin de quoi que ce soit. On va juste garder le dollar américain. On va importer la politique monétaire américaine. Ça, il y a une littérature sur la dollarisation.
C'est une manière de faire, excuse de te couper, mais c'est un peu faire quelque chose qui se fait déjà de manière implicite. C'est-à-dire que quand tu vas dans à peu près tous les pays du Sud, les gens transigent en dollars américains bien souvent et apprécient beaucoup que tu les payes avec ça et non dans leur monnaie locale, peu importe le montant que tu donnes. Fait que, c'est déjà quelque chose qui se fait. Je ne suis pas sûr que ça choque tant que ça les citoyens. Il y a un aspect symbolique à ça. Je peux comprendre parce que les gens ont l'impression que c'est comme une forme de... Pas de colonisation, là, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est comme un peu une forme de...
Oui, mais c'est aussi que le libertarien n'est pas capable de passer directement en deuxième place parce qu'il propose d'autres affaires un peu plus radicales que moi, j'aime bien, soit dit en passant, parce que je le connais. Je ne cacherai pas que je l'ai déjà rencontré à des conférences parce que c'est un économiste. Il faudrait que je dise ça. Là. Il est super. il est crissement à free market, OK? J'ai l'air d'un communiste comparé à lui, okay? J'ai vraiment l'air d'un commis comparativement à ce gars-là. Mais au final, il y a plusieurs pays qui ont dollarisé. Et la raison, quand tu dollarises, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'importer la qualité des institutions d'un autre pays. Donc, tu es en train de dire, je sais que peu importe ce que je fais, tu ne me croiras pas, d'une part, que j'essaie de faire des investissements de crédibilité institutionnelle, mais aussi, je n'ai aucune incitation, moi, à respecter ça, étant donné la situation. Parce que le problème de toute institution, c'est que tu as un double problème. C'est qu'il faut que l'autre personne te croie que tu es crédible, mais aussi, c'est qu'une fois qu'elle t'a cru, est-ce que tu vas nier ta promesse? Donc, une fois que le homard est dans la cage, est-ce que tu vas fermer la cage puis le garder coincé, puis là, vas le maltraiter, puis tu vas le mettre dans l'eau bouillante? C'est la meilleure, c'est correct. J'aime bien les cages à homard, étant donné qu'est-ce que je finis par manger avec ça. Mais pour un être humain ou un investisseur, la cage à homard, ce n'est pas particulièrement plaisant. Par contre, si ce que tu dis, c'est « je n'aurai pas de monnaie nationale, le dollar américain sera mon dollar américain », bien là, ce que tu es en train de dire, c'est « garde, tu n'as pas besoin de me croire, tu as juste besoin de croire les États-Unis. » Regarde, je n'agirai pas dans ce domaine-là et je ne peux pas saisir tes actifs américains parce qu'ils vont être en dollars américains. Donc, je ne peux pas les saisir. Ils sont à toi. Ils sont ta propriété. C'est des actifs américains, mais qui sont chez nous. Donc, tu ne peux pas. Non seulement tu limites la capacité de faire défaut sur ta dette comme gouvernement, mais aussi en via l'inflation, mais aussi tu crées une sorte de mécanisme
de droit de propriété. C'est une manière de starve the beast un peu, là, d'une certaine manière.
Mais s'attacher les mains, je ne dirais pas starve the beast, mais tu es en train de mettre, ce que je dis tout le temps, tu es en train de mettre une contrainte sur le gouvernement. Bon, si la France décidait de se dollariser, ça serait un peu weird. La France a quand même, l'Union européenne, ont quand même une politique monétaire relativement crédible, relativement au reste du monde. Mais pour un pays qui est plus loin de la frontière de crédibilité, ça fait plus de sens de dollariser. Ouais. Et probablement que c'est la meilleure chose pour que l'Argentine se stabilise. Parce que du jour au lendemain, tu passerais d'une création monétaire qui génère de l'inflation à 100% au même système qui crée de l'inflation à 5% aux États-Unis.
Mais c'est pour ça que...
L'inflation, tu le dis.
Ouais. C'est pour ça que quand j'entendais des gens qui sont genre pour la sortie de l'euro ce genre de trucs-là, j'écoutais un des arguments qui me fascinait, j'étais comme, je sais pas si vous pensez que vous allez convaincre des gens, en tout cas avec ça, là, c'était comme, je sais plus qui disait ça, mais disant en gros, ah mais si on sortait, c'était des Français, disaient si on sortait de l'euro, le gouvernement, là, il pourrait imprimer de l'argent, puis on pourrait se prêter à nous-mêmes. Blablabla. Là, j'étais comme, ouais, mais je suis pas sûr que c'est vraiment une bonne chose. Tu sais, en gros, l'opposition à l'euro, c'était de dire, ben, si on n'était pas dans l'euro, on pourrait faire nos propres conneries avec notre propre banque centrale, là, comme on faisait avant. Puis là, je suis comme, je sais pas si. Tu sais, je suis prêt à. Il y a bien des arguments que je suis prêt à entendre, tu sais, un peu les ceux qu'on entendait durant le Brexit, tout ça. J'ai pas de problème avec ces arguments-là. Mais celui-là, je ne suis pas sûr qu'il me convainc vraiment. Là, que si on était, si on retournait au franc, on pourrait recommencer à faire des conneries avec notre banque centrale puis faire imprimer du cash.
Je te dirais que je vais le prendre à un niveau méta. J'aime cet argument-là parce que ce qui se passe, c'est que quand tu as l'Union européenne, puis on l'a vu avec la Grèce, avec la zone euro, tu as un membre qui peut agir d'une certaine manière et donc déléguer les coûts à d'autres membres. Donc, quand l'importance, c'est pas toutes les unions monétaires qui font du sens. Mm-hmm. Il faut que tu aies vraiment un haut niveau d'intégration entre les économies qui font partie d'une union monétaire pour que ça fasse du sens. Mais il faut aussi que tu aies, c'est pas juste l'intégration des échanges, c'est même une intégration que les politiques fiscales vont un peu dans la même direction. Ce qui veut dire que tu as deux réactions présentement en Europe. Tu as ceux qui sont un peu comme moi qui disent « tu devrais peut-être pas avoir l'euro, puis tu devrais avoir des monnaies nationales, ou est-ce que chacun a sa politique fiscale de telle sorte que tu as de la compétition monétaire, de la compétition sur les politiques publiques, et donc tu as un mécanisme qui évite aussi les effets de contagion de la même manière. » Ou tu as des gens qui sont plus centralistes, qui disent que ben il faut, maintenant qu'on a fait l'union monétaire, il faut qu'on fasse l'union fiscale. Ben les deux, on a le même argument en tête, c'est que l'Union européenne, la zone euro telle qu'elle est présentement, n'est peut-être pas optimale. ma solution à moi, c'est que ça serait mieux d'avoir ce que tu avais avant, un mécanisme de concurrence des monnaies. Parce qu'au final, si la France veut faire ses conneries, la France fera ses conneries et elle paiera.
Ouais,
et elle assumera les coûts tout seul. Mais présentement, les niaiseries que la Grèce fait, par exemple, de manière fiscale, sont portées par les Allemands.
Ouais.
C'est déplaisant pour les Allemands. En fait, c'était une des raisons que tu avais pendant la crise financière grecque, la Grèce fiscale grecque, excuse-moi, que tu avais autant d'hostilité entre les Grecs et les Allemands qui allaient souvent prendre leurs vacances en Grèce, c'était que les Grecs étaient vus que c'est les Allemands qui leur imposaient de faire quelque chose et les Allemands étaient fâchés parce que c'était eux qui payaient la facture.
Ben, c'est un peu le même phénomène. En fait, ils vivent un peu le même phénomène qu'on a au Canada. Tu sais, t'as certaines provinces qui sont comme moi, mais là... Le Québec, avec ses trucs fiscales et ses dépenses, c'est bien le fun, mais c'est tout à fait de vous autres qui payez la facture.
Oui, bien la péréquation. C'est pour ça que, d'ailleurs, puisque Yann se présente pour le PQ dans Jean Talon, c'est pour ça que je dis que la meilleure chose qui va se passer pour le Québec avec l'indépendance, c'est pour ça que moi je suis un indépendantiste, c'est que je pense que le cadre fiscal fédératif canadien crée des incitations qui font en sorte que les politiciens québécois sont plus dépensiers, adoptent des politiques publiques qui nous appauvrissent, mais qui aussi appauvrissent le reste du Canada. Si le Québec partait, le reste du Canada serait mieux, et nous, les Québécois, on serait mieux aussi, parce que nos politiciens auraient des incitations complètement différentes. Mais maintenant, puisqu'on ne paye pas la facture complète, allons-y, faisons des programmes qui ne font pas de sens, dépensons sur des niaiseries, tapochons sur les anglophones parce que le document n'est pas en français.
Ouais, c'est ça.
Parce que j'ai écouté le truc avec Rochelot. Tu ne payes pas le plein prix de tes décisions quand tu es comme ça. Donc, abonnez-vous au Patreon pour pouvoir continuer d'écouter.
Absolument. Écoute, on va passer à la partie bonus sur le Patreon. On voulait... En fait, on va poser une question qui est relative un peu à un truc qui s'est passé sur Twitter. Est-ce que les gens étaient 5 à 6 fois plus riches qu'aujourd'hui dans les années 30? C'est l'hypothèse qu'avait un intervenant qui a depuis supprimé sa publication et auquel Vincent a répondu. On va en jaser dans le Patreon et d'autres petits sujets aussi. Donc, joignez-vous à nous, soit par le code au bas de l'écran ou directement sur patreon.com/isénéchal.